Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, c'est notre dernier rendez-vous de la semaine, ce soir, mais pourquoi Jeanne d'Arc ? C'est Maurice Barrès qui parle. Nous sommes le 14 avril 1920, le député défend sa proposition de loi visant à instituer une fête nationale en l'honneur de Jeanne d'Arc. Écoutons-le. Il n'y a pas un Français, quelle que soit son opinion religieuse, politique ou philosophique, dont Jeanne d'Arc ne satisfasse les vénérations profondes. Chacun de nous peut personnifier en elle son idéal. Êtes-vous catholique ? C'est une martyre et une sainte. Êtes-vous royaliste ? C'est l'héroïne qui a fait consacrer le fils de Saint-Louis par le sacrement gallican de Reims. Pour les républicains, c'est l'enfant du peuple qui dépasse en magnanimité toutes les grandeurs établies. Enfin, les socialistes ne peuvent oublier qu'elle disait « J'ai été envoyé pour la consolation des pauvres et des malheureux ». Ainsi, tous les partis peuvent réclamer Jeanne d'Arc. Et tous les partis d'ailleurs la réclament encore, presque 100 ans après. Il n'y a pas grand-chose à enlever du discours de Barrès. Jeanne d'Arc est à nouveau largement revendiquée après plusieurs années de captation par le Front National. Laurent Fabius préside ce week-end les fêtes de Jeanne d'Arc à Rouen, fêtes organisées pour commémorer sa mort le 30 mai 1431. Le 8 mai dernier à Orléans, pour célébrer la libération de la ville, c'est Emmanuel Macron qui mettait son destin dans le sillage de celui de la Pucelle. Et quelques semaines plus tôt, Philippe de Villiers triomphait des Anglais au Puy du Fou. L'anneau de Jeanne d'Arc était de retour en France. Alors pour quiconque n'est pas versé dans l'idolâtrie, un tel culte a de quoi surprendre. Le personnage fut-il vraiment à la hauteur de sa légende ? Mais pourquoi Jeanne d'Arc ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir trois invités ce soir. Colette Beaune, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, médiéviste, professeure émérite à Paris 10, Nanterre. Vous avez publié aux éditions Perrin en 2008, Jeanne d'Arc, vérités et légendes. Pour discuter avec vous, Michel Evinoc, bonsoir.
Bonsoir.
Historien, professeur émérite à Sciences Po Paris. Vous êtes spécialiste de l'histoire politique de la France depuis la Révolution. Je rappellerai simplement un de vos derniers ouvrages, c'était votre François Mitterrand chez Gallimard l'an dernier. Vous avez consacré un long article à Jeanne d'Arc dans Les lieux de mémoire de Pierre Nora, ouvrage également publié chez Gallimard. Et puis troisième invité, Jacques Trémollet de Villers, bonsoir.
Bonsoir.
Avocat au barreau de Paris, je ne rappellerai que parmi vos plus célèbres clients, Paul Touvier, mais il y en a eu bien d'autres. Vous êtes par ailleurs écrivain et vous avez publié en tout début d'année Jeanne d'Arc, le procès de Rouen, procès lu et commenté par vous. Et c'est un ouvrage qui est publié aux éditions Les Belles Lettres. J'évoquais la cérémonie de l'anneau, c'est un petit peu comme ça qu'on l'a appelé, qui a eu lieu il y a quelques semaines de cela au Puy du Fou. Il paraît que c'est vous, Jacques Trémollet de Villers, qui avez informé Philippe de Villiers que l'anneau de Jeanne d'Arc, ou en tout cas supposé être son anneau, ou un de ses anneaux, était en vente en Angleterre, c'est vrai ?
Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai reçu un courriel d'un client qui connaissait mon livre et qui me dit « l'anneau de Jeanne d'Arc est en vente à Londres ». Et je suis resté très sceptique. Et puis, comme j'étais sceptique, il m'en a relancé un autre en me disant « mais je vous envoie le lien ». Alors j'ai regardé le lien et j'ai vu la présentation par timeline de l'objet qui avait l'air assez sérieuse. Et là-dessus, j'ai passé quelques coups de fil à certaines personnes, certains amis qui m'ont dit « mais ça va monter très haut, on n'a pas les moyens ». Bon. Et puis, je me suis dit « pourquoi pas Philippe de Villiers ?» Parce que Philippe de Villiers, dans son livre « Le roman de Jeanne d'Arc », commence par quelque chose qui est historiquement faux, mais poétiquement vrai. Il lui fait regarder son anneau avant sa confession générale, qui est le thème de son livre. Et je lui ai dit « ton anneau, ça marche pas, parce qu'elle ne l'avait plus ». Mais poétiquement, c'est vrai, parce qu'avant toute chose grave, elle regardait son anneau.
Ça veut dire que vous êtes peut-être encore aujourd'hui sceptique sur l'authenticité de cet anneau ?
Je ne suis pas du tout sceptique sur l'authenticité de l'anneau, mais je trouvais que son intuition poétique était de nature à le pousser à faire quelque chose pour cet anneau.
Bah alors Colette Bonne, est-ce que vous êtes allé voir cet anneau au Puy du Fou et qu'est-ce que vous pensez justement de cette cérémonie qui a eu lieu autour de son retour en France ?
Non, moi je ne suis pas allée au Puy du Fou, mais j'ai reçu un dossier très complet de Philippe de Villiers avec énormément de photos et puis aussi les analyses d'Oxford, et puis les analyses des bijoutiers spécialistes de bijoux anciens qui, les uns comme les autres, disaient en gros qu'il y avait de bonnes chances que ce soit un anneau du XVe siècle.
Donc déjà, c'est plutôt la bonne période.
C'est la bonne période. Sur lesquels il y avait écrit Jésus-Marie. Alors par contre, les trois croix, on n'en voit qu'une à l'heure actuelle et non pas trois. Le reste est moins satisfaisant. Mais c'est pas ça qui m'a gênée, à vrai dire. C'est que la traçabilité de l'anneau depuis le 15e, vous me direz, une traçabilité depuis le 15e, c'est bien difficile, et je suis d'accord avec vous, mais elle n'est absolument pas établie. J'aurais voulu au moins un document. Si vous voulez, c'est pas difficile, un document de plusieurs siècles, ça aurait fait mon affaire. Un inventaire à frais d'essai, un testament d'un quelconque des Portland. Or, pour toute la période où l'anneau est aux mains des Portland, c'est-à-dire en gros jusque presque 1900, eh bien, on a franchement rien. On a la généalogie des Portland, oui, ça c'est vrai, elle est indiscutable, ça c'est vrai aussi, mais ça ne prouve pas que l'anneau circule. Autrement dit, c'est un problème de traçabilité qui me gêne.
Michel Vénoc, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? Est-ce que vous avez été également gêné ? Est-ce que vous y avez vu une entorse peut-être au travail historique, mais peut-être qu'on n'est pas vraiment justement dans ce domaine-là et qu'on est plus dans la commémoration et tant pis finalement si cet anneau n'est pas vraiment celui de Jeanne d'Arc ?
Bon, bah, vous avez répondu à ma place.
Pardon.
vous savez, pour moi, c'est de l'anecdote. Que cet anneau soit vrai ou pas, qu'importe. Je dirais qu'il y a même là-dedans un fétichisme auquel je suis complètement étranger et ça ne m'intéresse absolument pas. L'histoire de Jeanne d'Arc, sa figure, l'histoire réelle et l'histoire posthume de Jeanne d'Arc m'intéressent infiniment plus que les quelques souvenirs ou les quelques vestiges qui peut rester de sa vie réelle. Donc voilà, je suis complètement indifférent à cette histoire d'anneau.
Est-ce que c'est en tout cas révélateur d'une forme d'irrationalité qui peut y avoir régulièrement autour de ce personnage ?
Ah oui. Certainement. Certainement, il y a plusieurs façons de concevoir Jeanne d'Arc et son histoire, évidemment. Il y a une façon, je dirais, rationnelle, scientifique, même historique. Il y a une façon que je dirais idéologique, à savoir, bon, Jeanne d'Arc, nous allons en parler certainement, représente ceci ou cela selon les partis et les individus. Et puis, il y a une façon, je dirais, religieuse, idolâtre, dans laquelle cette histoire d'anneau entre et qui ne m'intéresse pas.
De quelle façon, vous, Jacques Trémollet de Villers, vous pensez avoir abordé le personnage de Jeanne d'Arc en republiant les minutes de son procès et en les commentant ? Il y a un vrai exercice d'admiration, en tout cas, dans le livre que vous avez publié.
C'est-à-dire que oui, parce que ce livre, de ce procès, ce texte, je le connaissais depuis un demi-siècle et je l'avais énormément lu. Mais pour une raison que je m'explique pas.
Parce que vous êtes avocat, peut-être.
Je ne l'avais jamais lu en avocat. Et donc, c'était environ il y a 2 ans que l'idée m'a pris, je sais pas pourquoi d'ailleurs, de le reprendre et de dire, mais au fond, je vais l'examiner en avocat. En avocat, c'est-à-dire que je vais les prendre minute par minute et PV par PV et puis je vais voir ce que cherchent les juges. Pourquoi les questions sont comme ça. Et si Jeanne a un système de défense. Et alors je dis très simplement, à ce moment-là, dès la première audience, en avocat, j'ai découvert Jeanne, comme je ne l'avais jamais vue.
Dites même que dès sa première réponse, c'est elle qui donne le tempo du procès.
Et je me suis dit, elle donne le tempo du procès, elle prend la main, il y a 46 juges devant elle, elle ne sait pas ce que c'est que la vie judiciaire, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'elle a subi un interrogatoire à Poitiers, à Chinon, oui. Elle s'est même défendue toute seule devant un tribunal ecclésiastique pour son prétendu mariage ou ses prétendues fiançailles. Donc, elle a une certaine pratique, mais c'est un des personnages historiques qui se défend devant les juges comme d'immenses personnages historiques ne savaient pas se défendre. Et c'est là où elle m'a soufflé.
Donc une approche passionnelle et néanmoins avec un regard d'avocat. Colette Bonne, en tout cas cette approche passionnelle et parfois irrationnelle, ça c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans le temps dès qu'on s'intéresse à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc qui d'ailleurs suscite une production éditoriale qui est assez incroyable. On a regardé juste sur Electre qui recense toutes les sorties de livres. Sur les 5 dernières années, il y a une centaine de titres qui ont été publiés ou republiés et qui parlent de Jeanne d'Arc. C'est quand même impressionnant. Hein.
Oui, c'est le personnage sur lequel on écrit le plus en France et c'est le personnage qu'on traduit le plus aussi à l'étranger. Donc, c'est vraiment la personnification pour les étrangers de l'étrangeté de la France, si vous voulez, en quelque sorte, voilà. Et bon, moi, j'ai pas pris du tout la chose comme Monsieur Trémollet-Dillert, parce que pour moi, c'était un sujet de travail universitaire. C'est-à-dire que je ne cherchais pas la sympathie particulière. Bien sûr, on a toujours une sympathie pour les choses sur lesquelles on travaille, un minimum. Sinon, on n'y consacre pas plusieurs années de sa vie, ça c'est vrai. Mais moi, c'était plutôt un principe de réalité. Je cherchais, à travers un personnage qui est un personnage compliqué, ce que les gens en avaient dit pour montrer qu'en fait, il y avait toujours eu plusieurs Jeanne d'Arc, que ce n'était pas quelque chose de récent, quelque chose du 19e, qui est une Jeanne d'Arc de gauche, une Jeanne d'Arc de droite. Il y a plusieurs Jeanne d'Arc dès son époque. Il y a la Jeanne d'Arc Armagnac qui est pleine de foi, qui fait des miracles, qui va sauver le roi. Il y a la Jeanne d'Arc bourguignonne qui est au contraire une sorcière et qui regarde son anneau justement pour faire toutes sortes de maléfices. L'anneau est lié à ça. Hein.
Il y a aussi une Jeanne d'Arc immédiatement après sa mort, je rappelle, un 30 mai 1431 à Rouen. C'est-à-dire que, est-ce que le culte, disons, autour de Jeanne d'Arc commence dès cette époque, ou bien est-ce qu'il y a une période où on l'oublie un peu parce que c'est un personnage sulfureux, hein, puisqu'il a été condamné pour hérésie.
Il y a culte de son vivant. Puisqu'on sait que les femmes lui font toucher leurs anneaux et on sait aussi qu'elle ressuscite un enfant. Enfin bon, il y a culte de son vivant. Jeanne d'Arc, c'est un des rares personnages qui était un mythe bien avant de mourir en général. Un homme politique, c'est un mythe au mieux 30 ans après sa mort. Jeanne d'Arc, non.
Et ce qui est d'autant plus étonnant que sa vie a été extrêmement brève.
Oui, mais dès qu'elle est morte, quand elle est morte, il y a quand même eu une période où il n'y avait rien parce qu'elle avait été condamnée pour hérésie. Et donc, il faut attendre 1456, c'est-à-dire la réhabilitation, la nullité du procès de condamnation, pour qu'à nouveau, il y ait des chroniques et des commentaires favorables sur son compte.
Et puis, il y a le 19e siècle, qui est ce grand siècle de l'histoire, Michel Vinocq, et vous dites, à propos de Jules Michelet, grand historien s'il en est, que ce fut lui le grand inventeur de Jeanne d'Arc.
Absolument. Bossuet, qui est un grand orateur et qui a une conception théologique de l'histoire, qui est une conception providentialiste, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans tout ce qui se passe, tous les événements, il faut voir la main de Dieu. Or, dans tous ces sermons, vous ne trouvez jamais la trace de Jeanne d'Arc, ce qui est extraordinaire, n'est-ce pas? Parce que c'était pour lui vraiment magnifique. Cela veut dire qu'au XVIIe siècle, Jeanne d'Arc n'a pas du tout la ferveur qu'elle a eue par la suite, et notamment au XIXe siècle. Au XVIIIe, il y a évidemment Voltaire qui écrit La Pucelle, mais et qui est précisément pour se moquer, ironiser sur Jeanne d'Arc, et pour se moquer de ceux comme Chapelain, n'est-ce pas, avait écrit des poèmes ridicules sur Jeanne d'Arc. Et c'est vraiment le XIXe siècle qui va, je dirais presque, inventer Jeanne d'Arc, révéler Jeanne d'Arc. Pourquoi? Alors, il se passe un certain nombre de choses. Je dirais, il y a le romantisme avec le retour d'un goût pour le Moyen-Âge. Car à l'époque classique, le Moyen-Âge, c'est une période barbare, obscure.
Gothique.
Voilà. Alors que, avec le romantisme, on s'intéresse de nouveau à cette période, à cette époque du Moyen-Âge, il y a cela. Il y a aussi un renouveau catholique après le départ, après la chute de Napoléon, sous la Restauration, etc. Et puis enfin, il y a le début des grandes études historiques, scientifiques, on peut le dire, avec François Guizot qui lance la Société d'Histoire de la France, avec Michelet, naturellement, les archives, etc. Et puis arrive Quichera, qui est le premier à éditer les procès d'accusation, de condamnation et de réhabilitation. Alors, la première édition est en latin, mais sous le Second Empire, il y aura plusieurs éditions en français. Donc c'est à partir du milieu à peu près du 19e siècle que Jeanne d'Arc va prendre une ampleur, une signification multiple, mais considérable.
Colette Bonnet, est-ce qu'il y a aussi l'impact de la défaite de 1870 où Jeanne d'Arc permet, comme d'autres personnages historiques, d'ailleurs je pense à Vercingétorix, de montrer la France qui certes a été battue, mais une France qui a résisté jusqu'au bout, une France héroïque?
Oui, parce qu'on commence à trouver des Jeanne d'Arc, effectivement, relevant le soldat mourant, comme il y en aura ensuite sur les monuments morts de la guerre de 14, mais en 70, ça existe déjà de façon beaucoup plus minoritaire. Et on voit aussi des statues être dressées, alors pas encore à l'intérieur des églises, parce que Jeanne d'Arc ne sera béatifiée, canonisée que beaucoup plus tard.
Il faut quand même rappeler que c'est l'église hein, qui a voulu sa mort.
Oui. Et la béatification va poser des problèmes, hein, parce que ça commence en 1869, si je me souviens bien, que Dupanloup.
69, c'est Dupanloup qui fait une adresse au pape
pour obtenir la canonisation. Voilà. Mais elle ne sera faite qu'en 1920, donc il va falloir attendre très très longtemps. Et la canonisation de Jeanne d'Arc posait quand même des problèmes. Elle avait été condamnée par l'Église, ce qui était un problème que de se déjuger peu.
Pouvait-on sacrée pirouette quand même pour l'Église, hein, même si du temps a passé entre sa mort et sa canonisation.
Oui, mais il y avait eu le procès d'annulation quand même.
Oui, mais pouvait-on la déclarer martyre? Eh bien, on a considéré que non, puisqu'elle avait été condamnée régulièrement. Donc on ne pouvait pas la condamner,
absolument.
La reconnaître comme martyre.
Et on peut ajouter ceci, c'est qu'elle était tout de même une patriote, c'est-à-dire une figure de la patrie française, alors qu'une sainte est universelle. Il a fallu démontrer que Jeanne était aussi universelle.
Jacques Trémollet de Villers, c'est quoi? C'est la sainte, c'est la patriote, c'est l'icône laïque qui vous intéresse? Je dis icône laïque parce que c'est ce que vous dites à la fin du livre.
C'est l'incarnation parfaite de la laïcité.
Alors expliquez-nous pourquoi
mais
ça
en fait,
d'ailleurs.
Mais en fait, c'est pas ça, c'est la conclusion. Ce qui m'intéresse, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, je vous le dis, dans le procès, c'est la personne de Jeanne. Vous savez, les avocats, nous, on voit les clients en prison, enfin, on a beaucoup de contacts avec eux, et puis tout d'un coup, parfois, dans les audiences d'assises, la liturgie lourde des assises vous fait révéler la personne. Beaucoup plus noire, ou beaucoup moins que ce qu'on avait vu. Elle apparaît sous un autre jour. Et la Jeanne que j'avais lue, que j'avais connue, à travers vos ouvrages, à travers les ouvrages de Régine Pernoud, à travers beaucoup, parce qu'elle m'intéressait comme personnage historique. Et grâce à vous, je l'avais connue. Grâce à vous, les historiens, les historiennes, je l'avais connue. Mais là, tout d'un coup, elle m'est apparue, si j'allais dire, comme une cliente. Comme si j'étais là près d'elle, comme avocat. Et d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, j'avais fait une très très belle préface de mon bouquin. Et j'avais passé mes premières feuilles à Jean Piat, que j'aime beaucoup et qui est un ami, et qui m'avait dit, qui m'a téléphoné 3 heures après en me disant « Vous tenez un truc fantastique, en homme de théâtre, hein, vous tenez un truc fantastique, mais je vous en supplie, virez-moi votre préface, quoi. On s'en fout. » Alors je dis quand même, c'était pas mal, j'avais beaucoup travaillé. Il me dit alors pour une fois, c'est une formule extraordinaire, non, pour une fois, et mettez-vous de côté, que pour une fois un avocat soit humble. Venant d'un comédien, c'était pas mal. Mais en fait, il m'a dit « vous nous faites entrer à l'audience et vous nous expliquez ce qui se passe. » Et c'est alors du coup, d'ailleurs vous l'avez vu dans la typographie, on a mis les réponses de Jeanne, enfin Jeanne, et puis moi je suis en tout petit, et les belles lettres, Caroline Moreau, quand je lui ai dit, vous savez, je tiens à ce que l'auteur ce soit Jeanne et pas moi. C'est pas de l'humilité ostentatoire, mais c'est parce que c'est elle. Elle m'a dit, c'est évident. Donc je suis très loin des récupérations parce qu'en fait, j'ai fait le chemin inverse, si vous voulez. Après l'avoir connue au travers de beaucoup d'auteurs, et d'auteur devant lequel je m'écrase complètement, elle m'est apparue comme forcément une cliente et une amie. Et alors après, l'admiration a suivi.
Colette Bonne, Jeanne d'Arc, ça n'est pas seulement... Alors c'est un personnage historique, mais j'avais envie de dire que ça n'est pas seulement un personnage de roman, mais ça, on peut aussi la considérer comme une sorte d'auteur, c'est-à-dire à travers la langue qui est la sienne dans le procès qui lui est fait. On voit aussi qu'il y a une langue française qui est assez, assez riche, assez belle hein, à lire.
Oui, c'est un très beau texte. Elle sait parler, elle sait répondre. Alors, bien sûr, souvent, elle sait répondre parfois avec insolence, dire passer outre quand elle n'a pas envie de répondre sur un truc qui l'ennuie. C'est vraiment un texte émouvant. On a l'impression d'entendre quelqu'un qui est là et qui vous parle. Et il y a très très peu de textes français, de cette époque surtout, qui donnent cette impression-là.
Alors cette dimension littéraire, c'est peut-être un des éléments parmi beaucoup d'autres d'explications autour de cette approche très passionnelle qui est celle de Jeanne d'Arc. Avant de parler peut-être des réappropriations qui sont celles d'aujourd'hui, je voudrais que vous nous racontiez quelque chose, Michel Vinocq, que j'ai découvert en vous lisant. C'est que on s'est battu pour Jeanne d'Arc, on s'est battu au pistolet et pas n'importe qui. Il y a eu un duel entre Jean Jaurès et Paul Déroulède.
Oui, écoutez, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que nous avons là deux personnages politiques qui sont évidemment apparemment aux antipodes. À ceci près qu'ils sont républicains quand même, tous les deux à une époque où Jeanne d'Arc était tout de même accaparée aussi par les monarchistes. Donc Jaurès représente la tradition socialiste et dans son livre « L'armée nouvelle », il va exalter Jeanne d'Arc et d'une manière du reste extrêmement personnelle parce que les socialistes et les républicains avaient tendance, n'est-ce pas, à enlever à Jeanne d'Arc son caractère précisément providentiel, son caractère sacré, religieux. Il voulait en faire un être humain exceptionnel, mais un être humain. Et lui, Jaurès, dans l'armée nouvelle, reconnaît quand même qu'elle a une dimension religieuse. Déroulède, lui, c'est le nationaliste républicain qui a lancé la Ligue des Patriotes et qui va faire partie de toutes les batailles nationalistes entre 1870 et 1914, disons. Il va, au moment du boulangisme, défendre Boulanger. Au moment de l'affaire Dreyfus, il sera anti-Dreyfusard, etc. Donc nous avons là, alors que Jaurès, lui, est dans le camp Dreyfusard.
Et là-dessus, j'ai greffé l'affaire Talamas.
Alors voilà, alors en 1904, n'est-ce pas ? Alors c'est une affaire complètement, apparemment complètement stupide, mais enfin, il y a un professeur d'histoire au lycée Condorcet, n'est-ce pas, qui, parlant à ses élèves de Jeanne d'Arc, il reste dans une position, je dirais, républicaine ou agnostique, en tout cas, pour dire, vous savez, les voix, Jeanne d'Arc et ses voix, ne vous y trompez pas, c'est pas ça qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est autre chose. Et alors, il a été l'objet, ce professeur, d'une cabale incroyable, parce que ses élèves ont répété la chose, et l'Action française a pris parti pour, comment dirais-je, si on peut dire, pour la divinité de Jeanne d'Arc, contre Talamas, a organisé un meeting, a fait une campagne du tonnerre contre le professeur en question, et là-dessus s'est greffé des querelles, des duels, etc. C'est quand même étonnant qu'on puisse, n'est-ce pas, en 1904, au XXe siècle, se battre ainsi parce qu'un professeur de lycée a pu dire qu'il doutait un peu des voix de Sainte-Catherine et de Sainte-Marguerite.
Et c'est à cette époque-là que l'Action française, pour payer toutes les amendes qui lui ont été infligées à l'occasion de l'affaire Talamas, crée quelque chose qui s'appelle le denier de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire un fonds de soutien pour tous ceux qui ont été emprisonnés pour avoir dit du mal de Jeanne d'Arc.
Est-ce que ça vous étonne, Jacques Trémollet de Villers, que ce personnage-là puisse être aussi bien revendiqué par des bords politiques aussi différents? C'était le cas donc il y a un siècle et on voit bien que c'est encore le cas aujourd'hui.
Ah ouais, moi ça m'étonne pas du tout. L'une des premières librairies qui m'a invité à parler de mon livre, c'est la librairie des Tropiques, rue Raymond Losserand. Et le patron de la librairie m'envoie un mail et me dit « Je vous préviens, je suis une librairie hegeliano-marxiste ». Et j'ai dit très bien, ça me va très bien. Bon, et donc
parce que vous-même vous êtes marxiste.
Voilà, c'est ça. Alors j'arrive et il dit aux personnes qui étaient là, il dit on peut s'étonner que j'ai invité Maître Trémollet de Villers qui est pas franchement de mon bord. Bon, et sur Jeanne d'Arc, il me surprend. Mais, et je vous cite exactement, mais comme le dit le camarade Vladimir Ilitch Lénine, les faits sont têtus. Et comme le disait mon maître Hegel, Jeanne d'Arc est un fait transcendantal. Maître, vous avez la parole. J'ai dit, j'ai plus rien à dire. Hein, vous avez tout dit. Et en fait, c'était d'ailleurs passionnant comme débat. Parce qu'il y avait tout. Il y avait le rationaliste qui me disait, enfin, maître, ça fait 50 ans que vous êtes avocat, vous avez vu toutes les couleurs. Comment vous pouvez croire à ces anges, à ces voix, enfin, c'est pas possible. Bon. Et je pouvais pas répondre parce que le patron, et j'espère qu'il m'écoute en ce moment, le patron de la librairie, hegeliano-marxiste, se retourne vers lui et lui dit, mon vieux, le problème de Jeanne d'Arc, c'est un mystère. Et le problème des mystères, c'est que c'est mystérieux. Si tu veux qu'on t'explique le mystère, eh ben c'est pas possible.
Michel Vinocq.
Oui, alors, il y a eu d'abord un grand débat, si vous voulez, pour savoir si Jeanne d'Arc appartenait à la tradition catholique ou à la tradition républicaine. Les catholiques, en effet, ont, au XIXe siècle, par conséquent, fait de Jeanne d'Arc un personnage représentant la foi chrétienne. Inspirés par Dieu, ils en ont fait un personnage, par conséquent, inspiré par le ciel. L'archange, Saint Michel, et certaines saintes qui ont existé ou pas, puisque Sainte Catherine et Sainte Marguerite, on n'est pas sûr vraiment qu'elles ont existé. Je crois bien même que Rome, en 1969, les a retirées du calendrier. Bon, peu importe. L'Église a voulu faire de Jeanne d'Arc son héroïne. C'était pas encore une sainte, hein, puisqu'on l'a dit, elle ne sera béatifiée qu'en 1920. Mais, canonisée en 1920. Mais, en tout cas, il y avait dans la grande querelle politique, religieuse et politique du 19e siècle, cette guerre civile continuelle entre la République et la monarchie, entre l'Église catholique et puis l'anticléricalisme, il y avait ce personnage qui a été tiré, n'est-ce pas, par les uns et par les autres. Que disaient les républicains ? Les républicains et les socialistes disaient « Jeanne, c'est le peuple ». C'est ce qu'avait dit Michelet, du reste.
Michelet, exactement, oui.
N'est-ce pas? Il avait dit Jeanne d'Arc, c'est le peuple. Et par conséquent, et là, en plus, c'est une héroïne patriote. La gauche est très patriote au 19e siècle. C'est une patriote qui a été condamnée par qui? Par l'Église.
Par l'Église.
Par un tribunal d'inquisition. Et par conséquent, elle est nôtre. Dans un article du Parti ouvrier, Lucien Hare, qui était le bibliothécaire de l'École normale supérieure rue d'Ulm et qui est une grande figure de l'histoire socialiste, a écrit cet article dans lequel il dit « Jeanne d'Arc est nôtre ». Et l'Église disait la même chose.
Et est-ce que vous diriez, Michel Vinocq, qu'aujourd'hui on assiste à une instrumentalisation qui est un peu du même ordre ?
Oui et non, parce que, si vous voulez, il y a eu... Les oppositions, hein, ça a continué longtemps. Cependant, il y a eu, si on peut dire, une troisième voie. Une troisième voie, faire de Jeanne d'Arc, non pas notre championne à nous, la droite, ou à nous, la gauche, mais faire de Jeanne d'Arc la sainte laïque de la patrie. Et ça a été réalisé par la loi, puisqu'en 1920, la même année où Jeanne d'Arc est canonisée par l'Église, on vote, par conséquent, la loi que voulait Maurice Barrès et bien avant lui Fabre, un républicain modéré, on vote officiellement la fête de Jeanne d'Arc qui aura lieu le 8 mai. Et Jeanne d'Arc, c'est une figure à ce moment-là réconciliatrice. Vous avez lu le texte de Barrès au début, n'est-ce pas ? Et c'est bien dans cet esprit-là que depuis, il y a très régulièrement la cérémonie d'Orléans qui a lieu le 8 mai à peu près, et la visite, très souvent, des chefs d'État, Pompidou, Giscard, Mitterrand, lui, on y va parce que Jeanne d'Arc, c'est la patrie, c'est la France.
C'est toujours la patrie, c'est toujours une figure de réconciliation, Colette Beaune.
Une figure de réconciliation, oui, mais je ne pense pas que le 8 mai doive sa faveur, si je puis dire, au vote de l'Assemblée nationale. Mais c'est quand même une fête qui, à Orléans, a commencé en 1429.
Donc, absolument.
Qui n'a
absolument
jamais cessé, sauf quelques années durant la Révolution française. Et il y a donc
une
puissance locale, une continuité. Et il est d'usage depuis les années 20, je crois, à peu près, d'inviter un homme politique. Il y a le discours de Monseigneur l'évêque, le discours du maire, et après, on invite un homme politique, oui, ou bien parfois un homme de radio, il y a Stéphane Bern, je crois, il est allé une fois, et chacun fait son discours.
Et si vous me permettez, dans cette fête d'Orléans, il y avait une fête avant tout qui était catholique, il faut le dire, n'est-ce pas, avec les prélats, etc. Et là, les républicains fêtaient Jeanne d'Arc, mais séparément. Or, à partir de la Grande Guerre, de l'Union Sacrée, et après, par conséquent, l'Union Sacrée et la loi de 1920, on va voir, pour la première fois, un président de la République, c'est Doumergue, qui est protestant, du reste, c'est Doumergue qui va, pour la première fois, assister, présider à une fête à côté oui. des prêtres et de l'archevêque.
Jacques Trémollet de Villers.
Je voudrais juste, dans la lignée de ce que vous avez dit, j'ai apporté un texte que je lis chaque fois que je présente Jeanne, ça fait 5 lignes, c'est un texte de Jean Guiton, mai 43, page brûlée. Jean Guiton est prisonnier en Allemagne et il s'aperçoit que dans le baraquement, ce que vous disiez tout à l'heure, les Français restent divisés malgré la promiscuité de la prison. Et il écrit ceci, « Au fond, ces diverses Frances souffrent, en grande partie parce qu'elles sont séparées l'une de l'autre. Et le jour où elles se retrouveront, elles se reconnaîtront assez vite. » Et voilà ce qui nous intéresse. Encore faudrait-il un centre de pureté et de vérité autour duquel les énergies latentes viennent se grouper. Il faudra peu, mais ce peu sera tout. Un souffle, une lumière, une doctrine, une direction, une voix venue du fond de la conscience de la France et qui aille au-delà du présent. En somme, il faudrait l'analogue de ce que Jeanne fut. C'est étonnant parce que quand on lit ça aujourd'hui, quand je lis ça aujourd'hui, lorsque je suis invité à parler du livre de Jeanne, tout le monde me dit mais c'est aujourd'hui. J'ai dit c'était en 43, mais c'était en 43, oui. Mais c'était aussi 50 ans avant.
Bien sûr. Alors je voulais vraiment pour aller dans le même sens lire un petit texte qui est à peu près de la même époque. Il est d'Aragon, poète communiste, résistant par conséquent. Et il dit ceci, on peut admettre qu'il y a en France deux grandes traditions, la chrétienne et la matérialiste. Où prend-on qu'elles soient inconciliables? Ne les trouve-t-on pas d'accord lorsque c'est la France qui est en jeu? Je n'imagine pas, sous le prétexte que je me réclame de la seconde, que je pourrais par exemple vouloir chasser de notre commun martyrologe, Jeanne d'Arc, pour ce qu'elle disait entendre des voix. Ce qui est pour moi essentiel dans Jeanne d'Arc, héroïne de France, ce n'est pas qu'elle entendit Monsieur Saint-Michel, c'est qu'elle ait sauvé le royaume de France. Et je suppose, sur un tout autre plan, que le matérialisme de Diderot n'empêche point un esprit chrétien de reconnaître ce qu'il y a en Diderot de spécifiquement français et par conséquent pour lui de défendable au même titre que la France. Et ce texte est écrit...
Donc Aragon, hein.
Oui, Aragon. Et Aragon a titré son article « La conjonction et, E-T, et » pour dire « La France, c'est pas homogène ». Mais c'est coordonné, il y a une conjonction de coordination, il y a deux traditions, ce que disait du reste d'une manière déjà magnifique Charles Péguy, qui a pu dire « il y a la tradition chrétienne et il y a la tradition laïque ». Et dans cette tradition laïque, il y a le fait que Jeanne d'Arc parle à l'humanité entière parce qu'elle est l'héroïne de la liberté.
Colette Bonne, pour qu'un tel personnage soit capable, longtemps après, de réconcilier finalement des familles qui sont a priori irréconciliables, même si, alors c'est vrai que ces dernières années, avec cette forme de captation d'héritage de Jeanne d'Arc par le Front National, on était moins sans doute dans ce personnage consensuel, mais on a l'impression que ça revient un petit peu aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'il a fallu aussi prendre certaines libertés avec les faits historiques, avec la réalité et historique, est-ce que ce personnage mythique qu'on a construit, il est quand même relativement différent de ce qu'était véritablement Jeanne d'Arc?
C'est une bonne question, mais il n'y a pas de réponse à ça, parce que les sources ne permettent pas de répondre à ça. Toutes les sources que nous avons sur Jeanne d'Arc sont des sources orientées. Et elle parle au procès, mais c'est un procès. Donc, elle répond à des accusations dont elle doit se défendre. C'est un procès, c'est une source historique un peu biaisée. Et puis, d'un autre côté, ensuite, au second procès, eh bien, les gens savent qu'il faut parler à sa décharge. Donc, ils ont aussi une présentation très armagnaque de Jeanne d'Arc. Et même, à la limite, ils vont dire « elle était comme toutes les filles », ce qui n'est sûrement pas vrai. Simplement parce qu'il faut faire profit bas. Voilà. Et donc... Étant donné que c'est un personnage mythique dès le début, je ne suis pas... Et que ce personnage mythique a deux facettes. Une facette religieuse, etc. Et puis aussi une facette laïque et patriote. Je crois que les deux sont possibles, mais les deux sont possibles parce que dès le début, c'est comme ça. C'est pas au 19e qu'on invente ça. Et quand vous disiez tout à l'heure, Michel, que au 17e, il n'y avait rien. Au 17e, dans la première moitié du 17e, si, Jeanne d'Arc est l'héroïne des catholiques et l'héroïne de Richelieu. Et de l'autre côté, les protestants s'efforcent de dire du mal d'elle parce que c'est pas eux.
Il y a la facette religieuse, il y a la facette patriote. C'est un patriotisme ouvert. Je vais encore citer Maurice Barrès. C'est grâce à vous, hein, parce que en vous lisant Michel Vinocq, que j'ai trouvé cette citation. Cela dit, c'est le même discours. Hein, c'est la présentation de sa proposition de loi en 1920. Il dit aussi « On s'aperçoit aujourd'hui que cette fille portait en elle l'embryon de la société des nations ». Ancêtre de l'ONU, de ce patriotisme qui respecte les autres patries pour qu'on le respecte lui-même. C'est-à-dire, on lui attribue quand même beaucoup de vertus, hein, Jeanne d'Arc.
Oui.
Ça, c'est un peu discutable parce qu'il y a aussi dans Jeanne d'Arc un côté nation. Hein. Il faut chasser les Anglais hors de France. À cette époque-là, c'était la guerre de 100 ans et donc on pouvait difficilement dire autre chose.
La question que vous posiez à Colette Beaune, d'abord, on peut se demander qu'est-ce que c'était que la conscience nationale au XVe siècle. Parce que n'oublions pas qu'on fait de l'histoire de Jeanne d'Arc le cœur d'une guerre entre la France et l'Angleterre, mais c'était une guerre entre des Français, entre des Bourguignons et des Armagnacs. Et par conséquent, faire de Jeanne d'Arc la sainte de la patrie, comme l'a voulu Michelet, je dirais que c'est très beau comme mythe, mais comme réalité, est-ce que les gens de France, du territoire français, avaient vraiment la notion de que Jeanne d'Arc représenterait la patrie, comme on dira plus tard? Ça, je ne sais.
Et puis même si on regarde ce que pense Jeanne d'Arc au point de vue politique, certes c'est le royaume de France qui est au premier plan et la grande pitié du royaume de France qu'il faut soigner, auquel il faut remédier. Mais Jeanne d'Arc pense aussi et surtout en termes de chrétienté. Et donc après la France, il faudra aller dans l'Empire et sauver l'Empire. Et après la Terre Sainte. Je veux dire que c'est très européen en un sens aussi.
Même si avec le retour du supposé anneau de Jeanne d'Arc en France, il y avait aussi l'idée, Jacques Trémollet de Villers, de faire un petit coup, enfin de faire un sale coup aux Anglais, quoi. Enfin, c'est dans les discours de Philippe de Villiers,
Non, c'est pas du tout comme ça. Le coup de l'anneau, c'est un coup de cœur. Et il s'explique comme ça. Donc c'est parce que. J'entends tout ce que vous dites et c'est vrai que ce sont des analyses, mais moi j'ai partagé ces analyses, mais maintenant je suis passé d'un autre côté. Je pense que Jeanne emporte tout le monde et elle emporte les adhésions parce que la personne de Jeanne est un phénomène extraordinaire et qui suscite le coup de cœur. Donc après, vous dites, c'est l'anneau de Jeanne, je le veux, enfin il faut qu'on l'ait. Après on se dit pas, oui alors on va faire un truc, ça va être bien, ça va être de droite, ça va être de gauche. Ça, tout à coup, tout ça devient complètement inconsistant, vous comprenez. On est en face d'un personnage qui domine, d'ailleurs on l'a dit tout à l'heure je crois, qui domine l'histoire et même d'une certaine façon l'histoire universelle. Elle est plus répandue dans le monde, sa célébrité, que Napoléon. Hein.
Il y a eu beaucoup d'incarnations d'ailleurs de Jeanne d'Arc, notamment au cinéma. Pour terminer, est-ce que vous en avez une
Dreyer.
Jeanne d'Arc? Alors,
Dreyer.
Colette Beaune, Dreyer.
Oui, c'est la
Moi,
plus sombre.
Moi, c'est Ingrid Bergman, Fleming.
Et pour vous, Michel
Oui, Vinocq. J'allais dire Dreyer, mais puisque ça t'est dit, je dirais Bresson.
Pas Luc Besson, par exemple.
Besson, oui.
Luc Besson.
Non.
Non, je parle pas de Bresson, je parle de Luc Besson. Vous savez que Luc Besson aussi fait un film sur
Jeanne d'Arc. Besson, il y a quelques. Non, c'est trop. Il a fait son truc. Il a fait son truc.
Bon, Jeanne d'Arc, elle a été évoquée dans des films directement. Et puis, on en a aussi parlé en chanson, pas seulement en France, mais chez ces Anglais qu'elle était censée aller bouter. Voilà les Smiths, Big Mouth Strikes Again, avec le chanteur qui explique qu'il ressent ce qu'a pu sentir Jeanne d'Arc au moment où les flammes montaient vers son visage. Voilà, illustration de l'internationalisme, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire, de Jeanne d'Arc. Merci beaucoup en tout cas. L'universalité, voilà. Merci beaucoup Jacques Trémollet de Villers, Colette Bonne et Michel Vinocq d'avoir participé à cette discussion. Si vous avez envie d'en apprendre davantage, je vous conseille par exemple d'aller à l'historial Jeanne d'Arc qui se trouve rue Saint-Romain à Rouen. Je crois que vous faites partie d'ailleurs du comité scientifique, Michel Vinocq, peut-être aussi vous également, Colette Bonne. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Hugo Florent, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Mathilde Barbier, Cyril Baer. Émission réalisée par Ghislaine David avec à la prise de son Jean-Frédéric. On se retrouve lundi à 18h20 pour poser la question suivante. Blocage, grève, manif, So French, ce sera un club de la presse internationale. Tout de suite, c'est Ping Pong.